Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de bonheur.
Absolument, c'est même le sujet de l'ouvrage Apicratie, écrit par la sociologue Eva Illouz et le psychologue Edgar Cabana, dans lequel les deux chercheurs interrogent la place ambiguë qu'occupe le bonheur dans nos sociétés modernes. En réalité, c'est une version tout à fait réduite du bonheur qui est abordée dans cet ouvrage, celle élaborée au tournant du XXe siècle par les tenants américains de la psychologie positive et postulant que pour atteindre ce sacro-saint bonheur, les personnes devraient effectuer un travail sur elles-mêmes afin de mieux se connaître et de mieux se corriger. Car c'est bien de cela qu'il est question. L'enjeu est de travailler sans cesse à une amélioration, à une maximisation même de notre potentiel pour atteindre une forme de béatitude sereine. En devenant une injonction sociale, la quête du bonheur devient aussi une source d'angoisse qu'il convient alors de combler, la poursuite du bonheur au carré en somme. Mais n'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Au-delà de cette joyeuse novlangue élaborée aux frontières du management et du développement personnel, vous pourrez trouver une foule de livres, de formations et autres applications numériques vous permettant d'atteindre ce bonheur perpétuel.
C'est d'ailleurs ce que les auteurs appellent les marchandises émotionnelles.
Oui, sorte de marchand du temple moderne ayant colonisé peu à peu les esprits et les librairies avec la promesse toujours renouvelée de nous rapprocher de nous-mêmes. Tous ces articles participent ainsi au travail de persuasion collective visant à nous convaincre que cette quête est la nôtre et que nous en priver serait nous condamner inéluctablement au malheur. Mais c'est surtout une source de consommation virtuellement infinie, car personne n'est jamais suffisamment sain ni suffisamment heureux. C'est donc une quête de soi à soi qui chaque jour se trouve nourrie d'un nouveau mantra, d'une nouvelle méthode ou d'un nouvel objectif à atteindre pour se trouver véritablement esprit sain dans un sain corps.
En témoignent les ventes phénoménales des livres dits de développement personnel, toujours dans les classements des livres les plus achetés, Arjuna.
Exactement, mais cette impossibilité psychologique du bonheur, pour citer Proust, est nourrie par ceux-là même qui prétendent nous fournir les clés du bien-être. Il aura fallu à peine plus d'une décennie pour nous convaincre que la valeur cardinale de notre existence tenait dans un sentiment empreinte d'individualisme et de consumérisme vorace. Sous couvert de nous aider à mieux vivre, ces théories nous maintiennent en réalité dans une forme de servitude câline, joyeuse et volontaire. Mais au-delà de ces logiques assez classiques de suggestion et de persuasion du consommateur, l'avènement du bonheur et de sa quête effrénée a eu des incidences bien plus profondes dans notre manière d'être au monde. La recette du bonheur ne repose plus sur une tentative de changer le monde, mais sur une quête permanente de se changer soi-même, changer la manière dont on pense, dont on ressent, dont on se comporte au quotidien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mantras de ces gourous du développement personnel sont des formules magiques appliquées de soi à soi. En intégrant le postulat que pour être heureux, il faut avant tout se changer soi-même, on accepte en réalité de renoncer à changer le monde. Si mon bonheur ne tient qu'à moi et à moi seul, à quoi bon m'ancrer dans une logique de changement plus large? À quoi bon lutter contre les structures du capitalisme qui nous opprime?
C'est d'ailleurs l'une des thèses centrales de l'ouvrage d'Illouz et Cabana.
Oui, les auteurs postulent clairement dans leur livre l'alliance objective de cette doctrine du bonheur et du néolibéralisme. En clair, plus les individus achèteront ces livres de développement personnel et moins ils se soucieront de combattre les injustices du monde. Ils expliquent ainsi que les personnes se sentant impuissantes face aux aléas de l'économie se rassurent en se disant qu'ils peuvent retrouver prise sur leur vie grâce aux outils fournis par l'industrie du bonheur. Outils qui fournissent, selon les auteurs, un sentiment d'espoir, de puissance et de consolation. Un cocon de plénitude dans un monde mauvais ou la dissolution de la lutte dans la perspective du bonheur individuel.